6. Dans le bureau de Nigel, on avait baissé les lampes, qui ne brillaient qu'au quart de leur puissance. Lorsque Otay se mit à gémir, Jake se réveilla instantanément. Les autres restèrent plongés dans le sommeil, du moins pour le moment.
« Qu'est-ce qui ne va pas, Otay ?»
Le bafouilleux ne répondit pas, mais ne cessa pas son grondement de gorge. Ses yeux cerclés d'or scrutaient le coin obscur au bout du bureau, comme s'il y voyait quelque chose de terrible. Jake se rappelait qu'il scrutait avec la même angoisse les coins d'ombre de sa chambre en se réveillant en sursaut à cause d'un cauchemar aux premières heures du jour. Un cauchemar avec Frankenstein ou Dracula ou le Tyrannosaurus, un autre croque-mitaine quelconque. Dieu seul savait quoi. Et à présent qu'il se disait que les bafouilleux faisaient peut-être des cauchemars eux aussi, il essaya plus que jamais d'entrer en contact avec Otay. D'abord, il ne sentit rien. Puis, il lui vint une image lointaine et floue.
Des yeux plongés dans le noir et qui regardent.
De quelque chose qui ressemblait à un bafou bafouilleux dans un sac.
« Chut !» murmura-t-il à l'oreille d'Otay, lui passant les bras autour du cou.
« Ne les réveille pas, ils ont besoin de dormir. »«
Mire !» fit Otay à voix très basse.
« Tu as juste fait un cauchemar !»
poursuivit Jake doucement.
« Moi aussi j'en fais parfois, ce n'est pas la réalité. Personne ne t'a mis dans un sac, rendors-toi. »«
Toi !»
Otay posa la truffe sur sa patte droite.
Otay, chut et toi.
C'est ça, lui envoya Jake en pensée.
Otay, chut et toi.
Les yeux cerclés d'or, toujours troublés, restèrent encore ouverts un moment. Puis Otay cligna d'un œil à l'intention de Jake et ferma les yeux. Quelques minutes plus tard, le bafouilleux s'était rendormi. Tout près, quelque part, un des siens était mort. Mais la mort faisait partie de la vie. La vie était dure, elle l'avait toujours été. Otay rêvait qu'il se trouvait avec Jake sous le grand globe orange de la lune du colporteur. Jake, qui dormait lui aussi, entra en contact avec lui par le Shining et rêva lui aussi de la lune de ce bon vieux Camelot.
Otay, qui est mort ?
Lui demanda Jake sous le clin d'œil averti du colporteur.
Otay,
dit son ami.
De là, beaucoup.
Sous le regard orange de la lune de ce bon vieux Camelot, Otay ne dit plus rien. En fait, il avait trouvé un rêve dans son rêve, et Jake l'y accompagna. Ce rêve-là était mieux. Ils jouaient tous les deux dans la lumière du soleil. Ils furent rejoints par un autre bafouilleux, pas très joyeux à le regarder. Il essaya de leur parler, mais ni Jake ni Otay ne comprenaient ce qu'il disait, car il parlait en anglais. 7. Mordred n'avait pas assez de force pour soulever le bafouilleux hors du sac, et Nigel ne pouvait ou ne voulait l'aider. Le robot se contenta de rester debout près de la porte du centre de contrôle, balançant sa tête de droite à gauche, comptant et cliquetant plus fort que jamais. Une odeur de chaud commençait à monter de ses circuits internes. Mordred réussit à retourner le sac et le bafouilleux, qui devait avoir à peine 6 mois, lui tomba sur les genoux. Il avait les yeux mi-clos, mais ses iris jaunes et noirs étaient ternes et immobiles. Mordred balança la tête en arrière avec une grimace de concentration. La lumière rouge parcourut de nouveau son corps et ses cheveux commencèrent à se dresser sur sa tête. Mais une seconde plus tard, le corps auquel il était rattaché disparut et l'araignée apparut. Elle arrima 4 de ses 7 pattes autour du corps du bafouilleux et le porta sans effort à sa bouche avide. En 20 secondes, il eut complètement saigné l'animal. Il plongea les crocs dans le ventre doux du bafouilleux, le déchira, le souleva plus haut et engloutit les viscères qui coulaient. Des chapelets de viande dégoulinante, délicieuse et pleine d'énergie.
La bête alla ronger plus profond, en poussant de petits gémissements de satisfaction étouffés, faisant craquer la colonne vertébrale du bafouilleux et aspirant le petit filet de moelle. C'était le sang qui était le plus énergétique. Oui, toujours le sang, comme les aïeux le savaient bien. Mais il y avait aussi de la force dans la viande. En restant un bébé humain, Roland avait utilisé le vieux terme affectueux de Gilead, « babot ». Il n'aurait pu tirer aucune nourriture de la viande ou du jus. Il se serait étouffé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais en araignée... Il termina son repas et lâcha le cadavre par terre, tout comme il l'avait fait avec ceux des rats qu'il avait vidés jusqu'à la moelle. Nigel, le majordome affairé et dévoué, s'était chargé des premiers, mais pas de celui-ci. Nigel se tint là, silencieux, et Mordred eut beau répéter en beuglant « Nigel, j'ai besoin de toi !» Rien n'y fit. Autour du robot, l'odeur de plastique brûlé était devenue assez forte pour activer les ventilateurs. DNK 45932 se tenait là, sa tête sans yeux tournée vers la gauche. Il lançait un regard étrangement interrogateur, comme s'il était mort sur le point de poser une question importante. Quel est le sens de la vie? Peut-être. Ou encore, de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV? Quoi qu'il en soit, sa carrière de rabatteur de rats et de bafouilleux avait pris fin. Pour l'instant, Mordred débordait d'énergie. Quel repas merveilleux et revigorant il avait fait, mais ça ne durerait pas. Et en restant sous sa forme d'araignée, il entamerait encore plus vite cette réserve. Cependant, s'il redevenait bébé, il ne serait même plus capable de descendre de cette chaise sur laquelle il était assis ou de remettre sa couche, qui bien sûr avait glissé au cours de sa transformation. Pourtant, il fallait qu'il se retransforme, parce que, en araignée, il n'arrivait pas à réfléchir clairement. Alors, pour ce qui était d'une quelconque stratégie de destruction, même pas la peine d'y penser. L'excroissance blanche sur le dos de l'araignée ferma ses yeux humains, et le corps noir rayonna d'un éclat rouge. Les pattes se rétractèrent vers l'intérieur, puis disparurent. L'excroissance, qui formait la tête du bébé, se mit à croître et se fit de plus en plus détaillée, tandis que le corps pâlissait et prenait peu à peu forme humaine. Les yeux bleus de l'enfant... Ses yeux de bombardier, ses yeux de pistolero lançaient des éclairs. Il regorgeait encore de l'énergie de la chair et du sang du bafouilleux. Il les sentait en lui, dans ce corps se précipitant vers sa nouvelle forme, mais une quantité non négligeable de cette réserve, comme la mousse sur un verre de bière, s'était déjà évaporée. Et ce n'était pas dû qu'aux transformations, d'ailleurs. Le fait est qu'il grandissait à toute allure. Une croissance aussi vertigineuse nécessitait un apport constant de nourriture, et ça ne courait pas les rues dans la gare expérimentale de l'Arc 16. Ou à Fédic, d'ailleurs. Il y avait des boîtes de conserve et des repas en sachets argentés, et des boissons énergétiques en poudre. Oui, là, il y en avait tout un stock. Mais rien de tout ça ne le nourrirait comme il avait besoin d'être nourri. Il lui fallait de la chair fraîche. Et plus encore que ça, il lui fallait du sang. Et le sang d'animaux endiguerait l'avalanche de sa croissance, mais ça n'aurait qu'un temps. Très bientôt, il aurait besoin de sang humain. Ou bien son rythme de croissance commencerait par se ralentir pour finalement s'arrêter. Alors viendrait la douleur de la faim. Mais cette douleur, qui lui vrillerait incessamment les tripes comme une foreuse, cette douleur ne serait rien comparée à la souffrance mentale et spirituelle de les regarder, eux, sur tous ces écrans vidéo. Toujours vivants, leur confrérie réunie avec ce grand réconfort d'avoir une cause à servir. La souffrance de le voir, lui, Roland de Gilead. Comment savait-il toutes ces choses, lui, Mordred, se demanda-t-il. Par sa mère? Pour certaines, oui, car il avait senti jaillir en lui 1 million de pensées et de souvenirs de Mia, pour un certain nombre, volé à Susanna, quand il s'était nourri d'elle. Mais comment savait-il que c'était la même chose avec les aïeux? Ou que, par exemple, un vampire allemand qui buvait le sang de vie d'un Français pouvait parler français pendant une semaine à 10 jours, le parler comme si c'était sa langue maternelle, puis ce don, de même que les souvenirs de la victime, s'évanouissait peu à peu. Comment pouvait-il savoir une chose comme celle-là? Cela avait-il de l'importance? À présent, il les regardait dormir. Le garçon, Jake, s'était réveillé, mais brièvement. Auparavant, Mordred les avait regardés manger, 4 idiots et un bafouilleux, plein de sang, plein d'énergie, en train de dîner ensemble, assis en cercle. Ils s'asseyaient toujours en cercle, même pour s'arrêter 5 minutes sur la piste, ils le faisaient sans même s'en rendre compte. Leur cercle qui mettait le reste du monde à l'écart. Mordred n'avait pas de cercle, lui. Il avait beau être tout jeune, il comprenait déjà que l'extérieur était son cas. Tout comme le cas du vent d'hiver consiste à ne souffler que sur la moitié de la rose des vents, du nord à l'est, puis en sens inverse, pour revenir vers le nord austère. Il l'acceptait. Pourtant, il ne les en regardait pas moins avec ce ressentiment de l'intrus, sachant qu'il allait leur faire du mal, et il en ressentait une amère satisfaction. Il venait de 2 mondes, de l'union prédite du prime et de l'âme, de Gadoche et de Gadoche, de Gan et de Gilead. En un sens, il était comme Jésus-Christ, mais il était aussi plus pur que l'homme-dieu berger, parce que le dieu berger n'avait qu'un seul vrai père, qui était aux cieux hypothétique, et un beau-père sur terre. Ce pauvre vieux Joseph, qui portait les cornes que Dieu lui-même lui avait mises sur la tête. Mordred des chênes, pour sa part, avait 2 pères véritables. Et l'un d'eux était endormi sous ses yeux sur cet écran. « Tu te fais vieux, père, » se dit-il. Et cette pensée lui procurait un plaisir pervers. Il se sentait aussi petit et misérable, pas plus gros qu'une araignée, qui observe depuis sa toile. Mordred était jumeau, et le resterait jusqu'à la mort de Roland, de la lignée d'Eld, et la disparition de tout son cas-tête. Et cette voix pressante, qui lui disait d'aller trouver Roland pour l'appeler père, d'appeler ses frères Eddie et Jake et Susanna sa sœur, c'était la voix crédule de sa mère. Il le tuerait avant même qu'il ait pu prononcer une seule parole, à supposer qu'il ait pu émettre autre chose que cet insupportable babil de bébé, et lui arracherait les parties et les donnerait en pâture aux bafouilleux de ce sale gosse. Ils enterreraient son cadavre castré et viendraient chier sur la terre où il reposerait, et puis ils changeraient de décor. « Tu te fais enfin vieux, père, et maintenant tu marches en boitant. Et à la fin du jour, je te vois frotter ta hanche de ta main qui désormais tremble légèrement. » « Regardez, si vous le voulez. Voici un bébé, assis là, du sang ruisselant sur sa peau blanche. Voici un bébé sanglotant des larmes silencieuses et sinistres. Voici un bébé qui en sait à la fois trop et trop peu, et bien qu'il nous faille garder nos doigts à l'abri de sa bouche, car il mord, ce galopin. Il mord comme un bébé crocodile. » Il nous est permis d'avoir quelque peu pitié de lui. Si le cas est un train, et c'en est un mono gigantesque qui fend l'air, peut-être fou, peut-être pas, alors ce vicieux petit lycanthrope en est l'otage le plus vulnérable, non pas attaché au rail comme la petite Nell, mais accroché au phare de l'engin. Il peut bien se raconter qu'il a 2 pères, et peut-être y a-t-il du vrai là-dedans, mais on ne voit ici ni père ni mère. Il a dévoré sa mère vive. Vrai. Il l'a dévoré beaucoup, beaucoup. Elle a même été son premier repas, et avait-il seulement le choix? Il est le tout dernier miracle qui sera jamais engendré par la tour sombre. L'alliance balafrée du rationnel et de l'irrationnel, du naturel et du surnaturel. Et pourtant le voilà seul, seul et affamé. Le destin attend peut-être de lui qu'il dirige une série d'univers, ou qu'il les détruise tous. Mais jusqu'ici, il n'a réussi à affirmer son pouvoir que sur un vieux robot domestique qui a maintenant rejoint la clairière au bout du sentier. Il contemple le pistolero endormi avec un mélange d'amour et de haine, avec envie et aversion. Mais supposez un instant qu'il aille les trouver et qu'il ne se fasse pas tuer. Et s'ils étaient prêts à l'accueillir? Voilà une idée ridicule, bien sûr. Mais retenons-la pour les nécessités de la discussion. Même dans ce cas, il serait contraint d'accepter la suprématie de Roland, de le reconnaître comme Dean. Et voilà qui serait impossible. Impossible. Oui, impossible.